à la technique. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. À très bientôt.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 15 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Recrudescence d'attaques djihadistes au Burkina Faso. La junte au pouvoir fait appel aux anciens militaires. Le Tchad a remis à la Cour pénale internationale l'ex-chef d'un groupe armé anti-Balaka de Centrafrique. Manifestation au Soudan pour dénoncer le viol d'une jeune femme par deux agents des forces de sécurité. Couvre-feu de 35 heures décrété à Kiev, tandis que l'armée russe étend son offensive en Ukraine. 3 millions de personnes ont fui le pays. Poursuite des négociations entre Kiev et Moscou, sans trêve militaire en vue jusqu'ici. Après le journal, une minute d'économie et les sports. Au Burkina Faso, au moins 7 personnes, dont 4 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont été tuées hier lors d'une attaque dans le nord du pays. Cette attaque est la cinquième en quelques jours dans la région. Le point avec Rosine Mounezero.
Des hommes armés ont attaqué dans la matinée de lundi des forages d'eau à Tonri-Oulo, une localité de la commune d'Arbinda, dans la province du Soum, a fait savoir mardi une source sécuritaire. Lors du sabotage des installations, les assaillants ont abattu 3 civils et blessé 3 autres. Ils ont aussi tué 4 éléments des volontaires pour la défense de la patrie venus à la rescousse, portant le bilan à 7 morts, selon la même source. Il y a quelques semaines, ils avaient déjà saboté les installations de téléphonie mobile et maintenant ils tentent d'asphyxier la ville en coupant tout ravitaillement, a indiqué la même source. Un mode opératoire qui confirme la stratégie observée ces dernières semaines, où des groupes djihadistes tentent d'occuper des villes du nord et de l'est du pays. Ces dernières semaines, plusieurs attaques meurtrières ont frappé la région de Dori, une des principales villes du nord-est du pays. 23 civils et 13 gendarmes sont morts dans ces attaques. C'est le plus lourd bilan depuis l'arrivée à la tête du Burkina du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a renversé le 24 janvier le président Roch-Marc Christian Kabore, souvent accusé d'être inefficace face aux attaques.
Le Tchad a remis hier à la Cour pénale internationale l'ex-chef d'un groupe anti-Balaka en Centrafrique, Maxime Mokom, suspecté de crimes de guerre et contre l'humanité, a indiqué la CPI. Monsieur Mokom, 43 ans, était le chef d'un groupe de milices autoproclamé d'autodéfense créé en 2013 en réaction à la prise de Bangui par les Séléka. Il est suspecté de crimes qui auraient été commis à Bangui et dans d'autres localités du pays. Nouvelle manifestation au Soudan ce mardi, mais cette fois-ci pour dénoncer le viol d'une jeune femme par deux agents des forces de sécurité. Le point avec Eric Manirakidza.
Des appels ont été lancés pour ces manifestations après qu'une responsable du ministère du Développement social a fait état lundi soir de l'attaque dont a été victime la jeune femme. Une enquête a été ouverte, a-t-elle précisé. À Khartoum, la capitale, les manifestants qui marchaient vers la présidence ont fait face à des tirs de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. De nombreuses filles et jeunes femmes faisaient partie du groupe. Certaines portaient des pancartes disant notamment « Ils ne vous briseront pas » ou encore « Nous ne céderons pas » sur un tract distribué lors des marches. On peut aussi lire « Les guerres ne se mènent pas sur le corps des femmes ». Ce qui s'est passé hier, c'est l'oppression non seulement des femmes, mais de tout le peuple soudanais. Et nous descendrons dans la rue jusqu'à ce que nos demandes de liberté, de justice et de dignité humaine soit honoré, a déclaré Amira Sali, une enseignante de 38 ans, que cite l'agence Reuters.
La Somalie n'a pas achevé les élections à la chambre basse du Parlement à la date butoir fixée à ce mardi, marquant un énième retard dans le processus électoral qui doit mener à la désignation d'un nouveau président attendu depuis plus d'un an. Le gouvernement n'a fait aucune communication, mais les États fédéraux du Sud-Ouest et du Galmudug ont conclu l'élection de leurs représentants. L'ambassade américaine en Somalie a salué dans un tweet les dirigeants de ces États pour avoir respecté la date limite. Le correspondant du New York Times au Zimbabwe, Jeffrey Moyo, va être jugé fin avril, a annoncé la justice. Le magistrat a rejeté la demande des avocats qui avaient demandé sa relaxe. Monsieur Moyo est accusé d'avoir obtenu de fausses accréditations pour Christina Goldbaum et Joao Silva, journaliste travaillant aussi pour le journal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au 20e jour de son invasion de l'Ukraine, l'armée russe a élargi son offensive à tout le pays. Elle a détruit un aéroport dans la ville stratégique de Dnipro. Kiev est toujours encerclé. Les précisions de Nani Talani.
Trois obus russes ont explosé très tôt ce matin à Kiev. L'Ukraine évoque des destructions massives à l'aéroport de Dniepr, à l'est de la capitale. À l'ouest, des corps sans vie ont été retrouvés après l'effondrement d'un bâtiment de 15 étages, selon les secours ukrainiens. Depuis hier, toute la région de Kiev est sous un couvre-feu qui court de 20h à 7h du matin. Dans la région de Kharkiv, la ville d'Izium, assiégée depuis 2 semaines, a enregistré 65 bombardements en 24 heures, selon les autorités. Les civils n'ont plus accès au chauffage et à l'électricité. Il manque d'eau, de nourriture et de médicaments. Les autorités régionales ont déclaré ce mardi une catastrophe humanitaire. Les soins médicaux ne sont pas fournis. L'ennemi bombarde insidieusement la route de Sloviansk et la route de Kharkiv est contrôlée par l'occupant. Les ponts ont été démolis, la ville a été coupée en deux, indique l'adjoint au maire de la ville, Volodymyr Matsokin. À Luhansk, ville située dans le Donbass à l'est, on signale de violents affrontements et des frappes ayant touché un pensionnat pour personnes malvoyantes, un hôpital municipal et 3 écoles. Selon l'ONU, le nombre de réfugiés ukrainiens avoisine les 3 millions, dont 1,5 million d'enfants. C'est le plus gros mouvement de population en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Des délégations russes et ukrainiennes ont repris leur pourparlers alors qu'une visite à Kiev des premiers ministres polonais, tchèques et slovènes est annoncée pour aujourd'hui. Le point avec Jacques Aristide.
Les trois chefs de gouvernement sont partis de Pologne en train ce mardi pour rencontrer dans la capitale ukrainienne le président Volodymyr Zelensky et leur homologue ukrainien Denis Shmigal. L'objectif du périple, effectué au nom du Conseil européen, est de réaffirmer le soutien sans équivoque de l'ensemble de l'Union européenne à l'Ukraine et de lui présenter un vaste ensemble de mesures de soutien, indique un communiqué. Cette visite, la première annoncée de dirigeants étrangers depuis le début de la guerre, intervient alors qu'on reprit cet après-midi des pourparlers russo-ukrainiens après environ 24 heures de pause. Au menu des discussions figurent notamment un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Celle-ci se déroule par visioconférence après 3 réunions au Bélarus voisin, puis une rencontre jeudi dernier en Turquie des chefs des diplomaties russes et ukrainiennes. Le Kremlin est estime prématuré tout pronostic, tandis qu'un conseiller de la présidence ukrainienne juge possible un accord de paix d'ici fin mai. Ce week-end, les deux parties se sont montrées plus optimistes. Le président Zelensky reconnaît que l'Ukraine ne pourra pas adhérer à l'OTAN, alors que cette question était un des motifs avancés par la Russie pour justifier son invasion.
Par ailleurs, le président américain Joe Biden participera à un sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles le 24 mars. D'autre part, le ministre turc des Affaires étrangères a été dépêché à Moscou, où il aura des entretiens demain, puis se rendra en Ukraine jeudi afin de rechercher un cessez-le-feu, annoncé le président Recep Tayyip Erdogan. Washington a annoncé de nouvelles sanctions visant le président biélorusse Alexandre Loukachenko et son épouse, alliée du président russe Vladimir Poutine, ainsi que des personnes et une entité russe pour atteinte aux droits humains, indiquait le Trésor dans un communiqué. De son côté, la Russie a annoncé des sanctions contre Joe Biden et plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État Anthony Blinken, en réponse aux mesures punitives de Washington contre Moscou en lien avec l'Ukraine. 13 personnalités sont visées par ces sanctions, dont la nature exacte n'a pas été précisée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Mohamedou Oumfa.
L'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, est en train d'évaluer les effets de la guerre en Ukraine sur la demande pétrolière mondiale cette année. Elle a maintenu pour l'instant sa prévision d'une hausse de 4,2 millions de barils par jour de la demande de brut cette année. Les membres de l'OPEP se refusent pour l'instant à augmenter leur production pour soulager le marché, se tenant au relèvement graduel de 400 000 barils par jour chaque mois, avec l'objectif de retrouver fin 2022 des volumes similaires à ceux d'avant la pandémie de coronavirus. Au Cameroun, des syndicats de conducteurs de taxis menacent d'entrer en grève à partir du 29 mars prochain si le gouvernement n'accède pas à leurs revendications, dont la plus importante est l'augmentation des prix des courses. Ces syndicalistes souhaitent que le tarif ordinaire du taxi, qui est actuellement de 250 francs CFA le jour et 300 francs CFA la nuit, passe à 300 francs CFA le jour et 350 francs CFA la nuit. D'après Investir au Cameroun, cette augmentation vise à aider les taximens à lutter contre la vie chère. L'agence de notation financière Fitch Ratings a confirmé la note de défaut à long terme des émetteurs en devises étrangères du Nigeria AB avec une perspective stable. Selon Financial Afrique, qui cite l'agence Fitch, le pays profite de la hausse des prix mondiaux du pétrole qui entraîneront une amélioration de la liquidité externe et soutiendront la croissance économique à court terme. Ces améliorations sont toutefois limitées par la forte dépendance du Nigeria aux hydrocarbures, avec des fluctuations qui jouent sur son économie.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. On connaîtra ce soir les quatre clubs de la conférence Sahara, qualifiés pour les playoffs de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Ce soir à la Dakar Arena au Sénégal, donc, face aux Mozambicains de Ferroviaire ou d'Abeira, Rwanda Energy Group tentera d'arracher sa quatrième victoire dans la compétition, synonyme de première place devant les Tunisiens de l'US Monastir, qui l'a battu hier 77-74. C'est la seule défaite des Tunisiens dans cette phase de poule. Choc aussi à suivre entre les Sénégalais de Dakar Université Club et les Marocains de l'AS Salé, qui se sont relancés après leur victoire hier, 91-81 devant Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Pour rappel, sur les 6 clubs de cette conférence Sahara, seuls les 4 premiers se qualifieront pour la phase finale prévue fin mai à Kigali, au Rwanda. Basketball toujours, mais cette fois-ci ici en NBA, grosse soirée offensive la nuit dernière. Karl Anthony Towns, auteur de 60 points, a permis à Minnesota de s'imposer 149-139 devant San Antonio. De son côté, Stephen Curry a planté 47 points avec Golden State contre Washington pour une victoire 126-112. Le meneur d'Atlanta, Trae Young, auteur de 46 points, a permis à son équipe de s'imposer 122-113 face à Portland. Le duel attendu entre le MVP en titre Nikola Jokic et un de ses possibles successeurs, le Camerounais Joel Embiid, a tourné à l'avantage du pivot de Denver avec 22 points, 13 rebonds et 8 passes décisives. Le Serbe a porté les siens à la victoire 114-110 sur le parquet des Sixers. En face, Embiid a inscrit 34 points. À noter aussi la poursuite du calvaire des Lakers de LeBron James, encore défait à domicile face à Toronto, de l'autre Camerounais Pascal Siakam, vainqueur 114-103. En football, match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe. Le suspense reste entier avant le match de ce soir à Old Trafford où Manchester United et Cristiano Ronaldo reçoivent l'Atlético Madrid 1-1 à l'aller. En cas de victoire du Man U, Cristiano Ronaldo, du haut de ses 37 ans, y gagnerait l'opportunité de disputer un 23e quart de finale de Ligue des Champions en avril, égalant le record que détient actuellement Lionel Messi, éliminé avec le PSG. À Amsterdam, l'Ajax de l'Ivoirien Sébastien Haller accueille Benfica. Le score était de 2-2 à l'aller. Bonne nouvelle pour Christian Eriksen. Près de 9 mois après son dramatique arrêt cardiaque en plein match durant l'Euro, la star du foot danois va faire son retour en sélection nationale, annonce la Fédération du pays scandinave. Christian Eriksen figure dans la sélection danoise pour les rencontres amicales contre les Pays-Bas et la Serbie les 26 et 29 mars prochains. Le numéro 10 a repris la compétition fin février en Première Ligue avec son nouveau club de Brentford. Âgé de 30 ans, le Danois vit avec un défibrillateur interne depuis cet accident cardiaque survenu le 12 juin contre la Finlande à l'Euro.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, au moins 7 personnes, dont 4 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste, ont été tuées hier lors d'une attaque à Arbinda, dans le nord du pays. Ces derniers jours, plusieurs attaques meurtrières ont frappé la région de Dori. Pour faire face à cette recrudescence des attaques, le colonel Paul-Henri Damiba a ordonné la mobilisation de militaires partis à la retraite ces 3 dernières années. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou Mohamedou Savadogo, expert des questions de sécurité au Sahel.
Ils ont entrepris cette stratégie depuis fin décembre 2021 et qui consiste à toucher les points sensibles, les axes et aussi les instruments de communication surtout. Ce qui a l'avantage d'isoler les populations, d'isoler les villes, donc ils se retrouvent sans information, sans renseignement et donc ce qui les permet aussi de se déplacer d'une ville à une autre sans être signalé au niveau des forces de défense et de sécurité. Et ça, ça a l'avantage de faire en sorte que les forces de sécurité naviguent à l'aveuglette. Et apparemment, ça marche parce que ça les permet de conquérir rapidement certaines zones.
Justement, quelles sont ces zones qui sont concernées?
Aujourd'hui, nous avons presque toute la région du Nord qui est complètement envahie par ces groupes armés terroristes. Il ne reste plus que la ville de Ouéga et de Titao. Au Sahel, la région du Sahel, on a Kibo. On a aujourd'hui, Tori est devenu un îlot en plein milieu des groupes armés terroristes. On a la région de l'Est qui a complètement aussi basculé. Il ne reste plus que Fada. Donc c'est pour vous dire qu'il ne reste plus que des grandes villes, des grandes agglomérations. Les communes de ces régions-là sont complètement vidées de leur personnel. Voilà pourquoi nous avons 1 700 et quelques mille personnes déplacées internes aujourd'hui au Burkina Faso.
C'est une sorte de première fois qu'il y a ces recrudescences d'attaques-là depuis la prise du pouvoir par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 24 janvier dernier. Pourquoi maintenant?
Depuis la prise du pouvoir, ils ne se sont pas arrêtés, ils ne sont pas rentrés en hibernation. Ils ont continué à miner les axes, ils ont continué à couper les canaux de communication, à couper les points sensibles comme les aérodromes, l'ONEA et puis la Sonabel. Donc je pense que leur stratégie est mûre et à point. Et là maintenant, ils peuvent passer à l'opération. Aujourd'hui, ils ont l'outrecuidance d'aller jusqu'à Kibo et de prendre Kibo en otage tout en sachant qu'il y a des forces à l'intérieur de Kibo. Ils en appellent au corps à corps.
On va rappeler que Kibo, c'est l'une des principales villes dans le nord du pays. Est-ce qu'il faille justement que les forces de l'ordre aillent à ce corps à corps-là?
Oui, aujourd'hui, on n'a plus le choix parce que aujourd'hui, les vecteurs aériens qui nous aidaient à gagner des victoires ne peuvent plus être utiles parce qu'ils sont au sein des communautés, ils sont dans les villes. Et donc, tout bombardement par les airs ne pourra pas résoudre le problème. Donc, il faut aujourd'hui les débusquer. Il faut faire ce qu'on appelle des combats de localité, le corps à corps. Donc, il y a l'apanage aujourd'hui des forces spéciales et aussi d'une partie de l'armée, parce que ce n'est pas toute l'armée qui est formée au combat de localité. Donc, ça veut dire qu'il nous faut encore changer notre mode de combat et aussi accepter d'aller à l'affrontement.
Pour faire face à cette recrudescence des attaques, le chef de l'État a fait appel aux militaires partis à la retraite ces 3 dernières années. Qui sont ceux qui sont concernés et quel serait leur rôle?
Ce sont des militaires d'Iran et des sous-officiers qui ont un âge à la retraite qui est compris entre 47, 48 ans et 55 ans. Donc ça veut dire que c'est des hommes encore valides. Non seulement ils sont physiquement aptes, mais aussi disposent d'expérience pour accompagner les jeunes sur le terrain et aussi les orienter. L'avantage d'avoir ces hommes-là, c'est que et c'est des hommes qui sont tout de suite disponibles, donc pas besoin de formation. Il suffit juste de les équiper et on pourra tout de suite les mettre en branle et les utiliser.
Mohamedou Savadogo, expert des questions de sécurité au Sahel.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Et Dans un rapport paru ce mardi, Human Rights Watch dénonce des exécutions de civils, des exactions et des pillages par l'armée malienne et les djihadistes au Mali depuis le mois de décembre. L'ONG soutient que les exécutions sommaires concernent au moins 107 civils, dont des commerçants, des chefs de village, des responsables religieux et des enfants. Le gouvernement de transition, issu de deux coups d'État militaires, rejette systématiquement les accusations d'exactions visant les militaires maliens. Pour en savoir plus, Nani Talani a joint à Bamako Daouda Kinda, consultant en questions sécuritaires.
D'abord, un peu situé, l'endroit qui a fait l'objet de ces rapports, c'est un endroit qui est au centre du Mali et qui fait l'objet de beaucoup de résurgences, d'attaques djihadistes depuis longtemps. Donc, cette cohabitation existe toujours entre ces populations et ces groupes armés. Donc, d'un moment ou d'un autre, il y a des débordements et c'est que avec la venue des coopérants russes, on a vu en tout cas que l'armée malienne est beaucoup impliqués en termes de ratissage et d'arrestation de personnes soupçonnées de faire partie des mouvements djihadistes. Et ces personnes sont très généralement de la communauté PEL. Donc, il y a eu des exactions, on a eu des photos, même si ces photos sont à vérifier. La Mauritanie aussi a signalé, il faut le dire, que beaucoup de ces ressortissants ont été portés disparus dans cette zone. Maintenant, il va falloir relier ces deux situations. Est-ce que c'est pas les mêmes? Si c'est les mêmes, quelle situation a pu réellement engendrer ce désastre-là? Mais, il faut le dire, il y a beaucoup de témoignages que nous-mêmes, personnellement, on a pu avoir sur place qui font état des exactions de la part des hommes qui étaient en tenue de l'armée malienne et accompagnés de certaines personnes qui sont des personnes blanches.
L'organisation accuse vraiment les soldats maliens.
C'est vrai, il y a des témoignages qui parlent de l'armée malienne, mais il va falloir que ces témoignages aussi soient corroborés parce que là, c'est comme si on en est parti sur le terrain, on a demandé une seule partie. Je crois qu'il y a des enquêtes qui ont été initiées par le gouvernement malien. Il faut le dire, cet endroit est entouré par une grande forêt, la forêt de Ouagadougou, qui est infestée de trafiquants de tous bords, qui s'habillent très souvent avec des tenues de l'armée régulière. Les terroristes aussi, les djihadistes, on en a vu beaucoup d'exemples, ont dans le passé utilisé ce même stratagème.
Daouda Kinda, consultant en questions sécuritaires, était joint à Bamako, au Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
L'armée sénégalaise mène depuis dimanche une opération vers la frontière gambienne visant à démanteler les bases de la rébellion casamançaise. Une offensive qui intervient un mois après la libération de 7 soldats sénégalais détenus par le mouvement des forces démocratiques de Casamance. En Gambie, des populations vivant à la frontière près des zones de combat ont fui leur village, poussant le gouvernement à appeler à une résolution pacifique du conflit. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Dakar Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal.
Nous n'avons pas d'avis particulier par rapport à cette intervention. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il faut que les dispositions soient prises pour que aussi bien les personnes déplacées à l'intérieur de la Casamance que pour les populations qui traversent les frontières, que les dispositions soient mises en place pour évidemment leur apporter secours. Parce que c'est une façon qui laisse absolument tout derrière elle.
D'ailleurs, justement, ces combats ont été ressentis de l'autre côté de la frontière en Gambie, provoquant, comme vous l'avez dit, un mouvement de population et poussant un peu Banjul à réagir. Que peuvent faire les gouvernements des deux pays pour éviter que le conflit n'ait des conséquences fâcheuses pour les populations?
C'est vraiment pas ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de tout faire pour mitiger les conséquences sur les populations, faire en sorte qu'un secours soit apporté en vivres, en hébergement à toutes ces personnes qui sont en train de fuir les zones de combat, qu'elles soient en territoire gambien ou dans les villages à l'intérieur de la Casamance. Maintenant, tout ce que nous soyons, c'est que l'opération se passe le plus vite possible et que les populations puissent retourner tranquillement dans leur localité. Parce que le but, c'est de sécuriser, de démanteler les bases, de sécuriser les zones, permettre un déminage humanitaire et permettre aux gens de retourner chez eux.
Alors, une bonne partie de l'opinion publique en Gambie, sur les réseaux sociaux en tout cas, dénonce le fait que le conflit casamancé s'exporte en Gambie, chez eux. Vous craignez que cela ne complique davantage la situation?
Oui, mais ce n'est pas une situation nouvelle. Dès le début du conflit en Casamance, la Guinée-Bissau et la Gambie ont été impactées. Ce sont les deux pays frontaliers de la basse Casamance, en tout cas,
Donc les populations qui fuient les affrontements ne peuvent aller qu'en Gambie et en Guinée-Bissau. Il y a eu à un moment donné plus de 10 000 réfugiés casamanciens en Guinée-Bissau. Certains y sont toujours. Tout le monde sait également que Saïd Sadio trouve refuge dans certains des villages situés dans le Founi gambien. Parce que le Founi casamancé, le Founi n'est pas que casamancé, une partie du Founi se trouve en Gambie. Et c'est la même aire culturelle, géographique, ethnique. Donc il y a forcément des complicités, des zones de repli en territoire gambien. Donc la Gambie a été impactée dès le départ. Ce n'est pas une nouveauté. Il faut simplement que l'armée gambienne se déploie, éviter que les hommes traversent avec des armes et accueillir les réfugiés à bras ouverts conformément aux conventions internationales.
C'était Sédhi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La cérémonie de remise du prix international de la femme de courage, décernée par le département d'État américain, s'est tenue hier. Trois Africaines figurent parmi les 12 récipiendaires cette année, la Libérienne Fassia Boyenoaris, la Sud-Africaine Rwekshanga Pasco et la Libyenne Najla Mangouche. Chaque année, ce prix honore des femmes du monde entier pour avoir combattu la corruption, la violence sexiste ou la discrimination et qui aide à bâtir des sociétés plus ouvertes et pacifiques. Catherine Gibson de La Voix de l'Amérique nous en dit plus sur cette 16e édition. Le récit est de Jacques Aristide.
Célébrer les femmes qui font preuve de bravoure et continuer à braquer les projecteurs sur les dangers auxquels elles sont confrontées aux quatre coins du globe. Quelques-uns des objectifs du prix de la femme de courage, remis cette année peu après la Journée internationale de la femme. L'occasion également d'évoquer la situation des Ukrainiennes. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
Des millions d'Ukrainiennes ont fui leur pays avec leur famille et davantage sont restées pour aider leur pays à lutter contre la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie. J'en ai vu beaucoup à la frontière avec la Pologne il y a à peine une semaine. Et c'est quelque chose qui reste ancré dans votre esprit et votre mémoire. Vous voyez des femmes traverser la frontière, des enfants avec elles pour fuir l'agression russe.
Les 12 femmes honorées cette année font toutes des efforts pour promouvoir la paix et la démocratie dans leurs pays respectifs.
This year's Women of Courage. Les femmes de courage de cette année rendent notre monde plus pacifique, plus juste sur 4 continents. Elles s'attaquent à des défis complexes allant du crime organisé à la dégradation de l'environnement. Elles font progresser les droits des femmes, des filles, des LGBTQI ainsi que ceux des personnes et d'autres groupes marginalisés. Et malgré le harcèlement, la violence, l'emprisonnement, elles persistent.
Parmi les femmes récompensées cette année, la militante libérienne des droits des femmes, Fassia Boyenoaris. Également reconnue, la parlementaire Doina German de la Moldavie. Ces femmes ont redéfini le courage, estime Najla Mangouche, lauréate du prix. Elle est la première femme ministre des Affaires étrangères de la Libye.
Quand vous décidez d'écouter votre vrai moi intérieur, quand il est difficile de parler, lorsque vous décidez d'être des femmes à des postes de direction, sachant que cela signifie que vous serez scrutées constamment à la loupe, jugées, critiquées et victimes d'intimidation, c'est du courage. Des femmes qui décident de tout risquer et de quitter leur pays d'origine, leur refuge en quête de l'épanouissement personnel ailleurs, c'est ça le courage.
Pour Jill Biden, la première dame des États-Unis, raconter le courage de ces femmes fait avancer la cause féminine partout dans le monde.
To all women of courage. Those fighting injustice in Latin America,
à toutes les femmes courageuses, celles qui luttent contre l'injustice en Amérique latine ou qui espèrent apprendre au Moyen-Orient, qui travaillent pour la démocratie et la stabilité en Europe, qui protègent leurs familles en Afrique subsaharienne ou qui s'élèvent contre la violence sexiste en Asie, nous continuerons à travailler avec passion et persévérance au nom du développement et la démocratie pour dire non à ceux qui souhaitent vous faire taire et nous raconterons vos histoires, même lorsque vous ne le pouvez pas.
Plus de 167 femmes issues d'une dizaine de pays ont reçu le prix international de la femme de courage depuis 2007.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnot et Lionel Gaïma. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.